Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en ce petit enfant que nous attendons tous, celui qui naît à Noël. Bienvenue à vous tous ici ce matin dans ce quatrième dimanche de l'Avent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux sociaux. Nous sommes dans une attente d'une fête qui renouvelle nos vies. Sans doute beaucoup d'entre nous aujourd'hui même sont sur le départ, dans la joie de retrouver leurs proches, peut-être un peu partout en France ou peut-être même à l'étranger. Voyageurs avec le cœur plein de reconnaissance pour les proches qu'ils vont retrouver, pour ceux qu'ils aiment et que parfois cette pandémie a empêché de voir souvent. Nous nous associons à cette joie très profonde d'être ensemble dans le même amour. Bienvenue à vous tous donc pour ce temps où nous allons accueillir la grâce incarnée. Et je vous invite à la prière pour entrer dans ce temps de culte. Éternel, tu nous rassembles. Nous sommes tous ensemble ce matin à l'écoute de ta parole, priant et te louant, comme ceux à qui tu as envoyé tes messages de grâce et de paix. Nous sommes comme Zacharie, comme Marie, comme Joseph, traversés par ta parole, transformés et convertis par ce que la Bible a appelé les anges et qui ne sont autres que tes messages, tes paroles qui traversent notre cœur et notre conscience. Fais de cette communauté une communauté accueillante pour ta parole. Prépare nos cœurs, que nous devenions terre d'asile pour tous ceux qui te cherchent dans ce monde, que nous devenions hospitaliers pour tous ceux qui attendent une nouvelle naissance, l'événement de ta parole dans leur vie. Amen. Et nous chantons ensemble le premier répond à l'entrée des psautiers français. Et nous nous levons. À ceux qui se demandaient « Quel enfant serait Jean-Baptiste ?» Son père répondit par cette louange. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Chantons notre reconnaissance et notre louange avec le cantique 92 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir. Les paroles de ce même Jean-Baptiste, celui que Zacharie attendait comme une bénédiction, nous appellent encore aujourd'hui à faire de nos vies des chemins de salut avec les mots du prophète Ésaïe. Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu. L'Éternel parle dans les prophéties d'Ésaïe et il dit « Je les guérirai et je les conduirai et je les comblerai de consolation. Paix, paix à celui qui est loin comme à celui qui est proche, dit le Seigneur. Je les guérirai. » Seigneur Jésus, prépare dans nos cœurs tes chemins, les collines de nos orgueils, abaisse-les par ton humilité. Les vallées de nos désespoirs, comble-les par ton espérance. Les chemins tortueux de notre mauvaise foi, redresse-les par ta vérité. et que fleurisse dans notre hiver la joie de ta grâce. Alors nous pourrons voir ta gloire et ta présence dans le visage de chacun de nos sœurs, de chacune de nos sœurs et de chacun de nos frères. Amen. Paix parmi les hommes, paix parmi les hommes, c'est la parole que tous ont entendue à la naissance de Jésus. Que cette paix soit sur nous tous, renouvelée sans cesse, car Dieu l'a promis, paix à celui qui est loin comme à celui qui est proche. Chantons notre reconnaissance. Nous confessons notre foi ensemble. Nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles, éternelle, pour le monde et pour nous, toujours et en tout temps. Toi, le Dieu de la résurrection, de la vie nouvelle et de l'homme relevé. Nous croyons que personne n'est enfermé dans la fatalité du malheur, mais que tu nous offres dans la foi l'horizon d'un bonheur. Nous croyons, grâce à Jésus, que l'homme est ton espérance et que ton amour pour lui est le même amour que tu as pour nous. Nous croyons qu'il est possible de nous laisser convertir à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain et qu'ainsi le règne de Dieu peut advenir chaque jour par nos actes et nos pensées. Nous croyons qu'une fraternité de foi existe avec tous ceux qui se soucient de ce monde et de ceux qui le peuplent, et qu'ensemble, quelle que soit notre tradition de foi, nous pouvons rendre manifestes toutes les choses nouvelles que tu crées pour nous. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Et ce matin, nous lirons ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 8 à 15. Nous nous arrêterons évidemment juste à temps pour laisser ensuite Agnès vous raconter la suite. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Je vous invite à chanter le cantique 101 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3. 101. Voilà, je ne touche plus à rien. Je vous invite. Alors, on a juste un petit problème de Larsen avec sûrement des fréquences qui nous tournent autour du temple. Et donc, on va espérer que nous avons bien fermé le canal qui provoque ça. Voilà. Je vais maintenant vous inviter à la prière. Je vous remercie de votre stoïcisme pendant le cantique. Vous avez été parfait. Et je vais maintenant prier avec vous après cette lecture biblique. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous recevions ta parole dans nos vies. Aide-nous quand nous ne savons pas où aller, quand nos chemins se perdent. Aide-nous à décider quand notre avenir est incertain. Aide-nous, Seigneur, en envoyant encore et toujours, aujourd'hui comme hier, tes signes. Nous te demandons de nous transformer, de nous convertir, d'ouvrir notre cœur à une parole qui puisse nous donner un nouvel horizon, là où nous souhaitons ouvrir de nouvelles voies. Aide-nous, Seigneur, et parle-nous. Amen. L'évangile de Luc commence par une collection extraordinaire de louanges. D'abord celle d'Élisabeth, qui bénit Marie quand dans son ventre Jean-Baptiste tressaille d'allégresse au contact de cette parente qui va elle aussi mettre au monde un enfant. Et Marie, elle, se met aussi à magnifier Dieu pour le don qu'il lui a fait. Puis c'est Zacharie qui loue Dieu parce que son fils sera le prophète du Messie tant attendu. Puis ce sont les anges du ciel eux-mêmes qui se mettent à louer Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains qui l'agréent. » On jubile chez Luc. Et justement, cette joie a quelque chose à voir avec ce que l'on appelle le jubilé. Cette année particulière qui scande le temps du peuple d'Israël, qui le scande en période de 49 années, soit 7 fois 7 années sabbatiques. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, au verset 8, il est écrit « Tu compteras 7 sabbats d'années ». 7 fois 7 ans, la durée de ces 7 sabbats d'année sera de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir la trompe de l'acclamation. Le jour de l'expiation, vous ferez retentir la trompe dans tout le pays. Vous consacrerez la 50e année et vous proclamerez la libération dans le pays. Pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Qu'a-t-elle de si spécifique cette année de jubilé pour que le verbe jubilé soit passé dans notre langage courant pour exprimer une grande joie? Eh bien, cette année-là, tous les pauvres qui ont perdu leur terre selon la loi du judaïsme, parfois quand ils ont perdu aussi leur maison parce qu'ils ont été obligés de la vendre pour pouvoir subsister. Parfois, c'est eux-mêmes qu'ils ont vendu, en vendant leur force de travail à un autre pour pouvoir être abrités et nourris. Tous ces fils prodigues, tous ceux qui avaient sombré dans la misère, peuvent se voir racheter leur terre ou leur maison par un racheteur de leur famille. On peut leur rendre leurs biens cette année-là. On peut redonner à une famille tout entière, à une lignée, une terre qui s'était perdue, une terre qui avait été vendue ailleurs le temps que la situation économique de la famille aille mieux. Un parent peut payer la dette et subvenir aux besoins de celui qui l'aide ainsi, mais si aucun parent ne peut payer la dette, alors tout le peuple décide ensemble de retirer cette dette. Cette année-là, on peut repartir à zéro. Effacer l'ardoise, oublier les créanciers grâce à la solidarité des proches. On libère les esclaves, on leur rend la vie sauve, la vie libre. Cette année-là, on ne sème ni ne moissonne, on ne récolte pas les fruits, on vit tous comme les oiseaux du ciel et l'on reprend ainsi conscience de la fragilité de la vie humaine, mais de façon solidaire, puisqu'on vit en mettant en commun les réserves de l'année précédente. Cette pratique du jubilé permet de ne pas retenir la dette d'un jour pour l'éternité et de restituer les terres aux anciens propriétaires qui les avaient perdues, leur redonner un lieu où habiter qui soit à eux, leur redonner cette terre promise tellement désirée et qui fonde l'histoire du peuple d'Israël. C'est une année qui permet de conserver la terre du peuple. Cette année du jubilé fait rupture dans l'histoire du monde ancien. Elle brise les chaînes de la pauvreté et redonne une chance à celui qui avait été pour un temps marginalisé, en le réintégrant socialement, complètement, en oubliant le passé. Cette année-là est une année de réparation, une année de grâce. Il existe un livre des jubilés, datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et la tradition a appelé ce livre la Petite Genèse, parce qu'il reprend l'histoire du salut, de la création du monde à l'Exode, en la découpant en étapes de 49 années, montrant ainsi que Dieu fait grâce sans cesse et qu'il y a un calendrier de la grâce de Dieu, un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. On peut y lire ces paroles divines adressées à Moïse. « Dispose ton cœur à recevoir toutes les paroles que je te dirai sur cette montagne et écris-les dans un livre, afin que leur génération puisse voir que je ne les ai pas abandonnés, malgré tout le mal qu'ils ont commis. » Cet écrit intertestamentaire, ce livre des Jubilés, nous donne à voir une tradition qui n'est pas dans nos Bibles et qui pourtant a inspiré nombre d'auteurs. On jubile là encore, sur fond de rédemption cette fois. Jubilé vient du mot « yovel » en hébreu, « corne de bélier », ce chauffeur dont on sonne pour annoncer la libération des esclaves. Cette corne de bélier dans laquelle on souffle pour annoncer ce pardon extraordinaire de Dieu. Les louanges de l'évangile de Luc parlent de cornes de salut et de compassion qui s'étend de génération en génération. La jubilation que Luc place au début de son évangile nous parle d'expiation, de grand pardon, mais aussi de fragilité prise en compte, de vulnérabilité assumée par une société qui prévoit une année de grâce pour tous, à la mesure de la mémoire de deux générations, 49 années. Ainsi, la fragilité devient possible, acceptable, comprise dans une vie habituelle d'un être humain normal. Contre la reproduction de l'exclusion sociale, le temps de Dieu se fait rupture. Faites d'un grand recommencement, sabbat des relations comptables, sabbat de l'exploitation de la terre, sabbat du combat pour survivre. Enfin, la paix se fait entre tous, et la paix promise par Dieu est à ce prix. Cette organisation sociale a de quoi nous inspirer encore aujourd'hui. Nous avons souvent tendance à croire que nous vivons avec nos seules forces et que nous sommes des individus isolés qui devons nous battre pour vivre avec nos seules forces. Et pourtant, ici, l'on entend que les autres sont un soutien, que l'on peut vivre ensemble en société en acceptant qu'à certains moments de la vie, l'un tombe et l'autre le rattrape. Alors on comprend le pardon préconisé par Jésus de Nazareth sous un autre angle. 70 fois, 7 fois pour le frère qui a offensé. Toujours pardonner, toujours donner la possibilité de repartir à zéro. C'est ce que Jésus est venu apporter. Ce Jésus enfant qui naît à Bethléem, dans cette ville qui s'appelle la Maison du Pain, est l'enfant providentiel, celui que tous attendent et qui fera advenir cette année de jubilé tant attendue. Cette année de paix entre les hommes, l'année où le mal cessera enfin, où les persécutions s'arrêteront peut-être. Quand l'évangile de Luc est rédigé, le temple de Jérusalem est déjà détruit. La ville est déjà vidée de beaucoup de ses habitants et la catastrophe n'en finit plus. Pour survivre spirituellement à ces drames, il fallait les interpréter, leur donner un sens, peut-être 50 ans après la mort du Christ, peut-être plus, en tout cas après la destruction du temple de Jérusalem, donc après 70. Pour survivre spirituellement, le peuple a essayé de comprendre ce qui lui arrivait. On y a vu alors les douleurs de l'enfantement des temps messianiques, ces douleurs qui précèdent l'avènement d'un sauveur, d'un Messie. Et l'on a eu l'idée extraordinaire de raconter l'histoire d'une naissance, la naissance du salut. La paix de Dieu, sa rédemption serait un enfant qui viendrait de naître, un homme tout neuf avec lequel on pourrait dire l'histoire du salut à l'échelle humaine, un salut à taille humaine, sur une seule génération, de la naissance à la mort, à l'échelle d'une vie, une nouvelle anthropologie. Un salut individuel, puisque le peuple, ce collectif qui avait fait tenir Israël, était alors disloqué, dispersé, loin de son temple et de ses fêtes collectives de rédemption. Il fallait inventer autre chose pour tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants de la diaspora. Bien sûr, cette naissance, bien qu'humaine, ne serait pas ordinaire. Elle aurait une ampleur cosmique pour parler à toute la diaspora, mais elle parlerait surtout aux plus vulnérables de l'Empire romain. Elle parlerait aux émigrés, contraints de quitter leur pays, voyageant de nuit pour éviter les persécutions, refaisant le voyage des pères vers l'Égypte pour sauver le trésor de la vie qui venait juste de recommencer. Cette vie minuscule qui tient dans une mangeoire deviendrait alors l'événement tant attendu, l'événement Christ. Bien sûr, cette naissance s'adresserait d'abord aux prophètes comme Zacharie, eux qui connaissaient l'histoire, mais pour mieux faire advenir un nouveau prophète, un prophète tout neuf lui aussi, qui aurait un nouveau regard, qui serait capable de dire la rédemption comme une urgence et d'accueillir le don de Dieu, de le reconnaître en la personne de Jésus. Un baptiste qui pourrait reconnaître le salut en un homme, qui pourrait comprendre le changement entre son baptême et cette vie nouvelle qui s'ouvrait devant lui. Bien sûr, il faudrait aussi que cette naissance s'adressât à des bergers, ceux parmi lesquels Jérusalem avait trouvé son roi bien-aimé, David. Mais cette fois, les bergers ne régneraient pas sur la cité détruite. Aucun d'eux ne serait oint par un prophète pour devenir roi. Non, ces bergers-là seraient en diaspora et ils passeraient les veilles de la nuit dans les montagnes, gardiens d'un troupeau exilé, courant voir à la crèche si le Messie pourrait leur redonner leur histoire, leur terre promise, leur salut. Et le voyant, les bergers deviendraient des ambassadeurs de la gloire de Dieu, eux qui n'allaient pas accomplir leurs devoirs religieux au temple quand il était encore debout, deviendraient des porte-paroles tout désignés pour annoncer la gloire de Dieu quand il n'y avait plus de temple. Et puis bien sûr, il faudrait qu'il y ait des anges pour orchestrer tout ce récit de naissance. Un ange ultra rapide qui irait d'un lieu à l'autre convaincre les protagonistes d'une histoire qui leur échappait complètement. Et des anges choristes chantant les louanges d'un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Jean Calvin lui-même défendait l'importance de ces anges dans les récits bibliques. Et il se demandait même, avec la tendresse qu'il avait pour les enfants, si chaque être humain avait le sien, et il en concluait que sans doute, pour chaque petit enfant, il y avait un ange qui le protégeait. Lui aussi voyait la paix de Dieu comme une urgence au milieu des persécutions et des déracinements. Il faut dire que la jubilation dans le ciel ou sur la terre passe souvent dans les textes bibliques par ces personnages extraordinaires qui, dans le livre des Jubilés, volent très vite, comme on l'écrit, et dans l'évangile de Luc, s'activent en tous sens pour organiser ce grand sabbat de Dieu, ce jubilé qui résonne dans les cieux très hauts. Et pour y parvenir, les anges parlent aux consciences humaines, les incitent à transgresser les règles du monde ancien qui sclérose tout changement. Ils se font événement, surgissement d'une autorité divine dans le fort intérieur de chacun, conscience de soi hors de soi, nouvelle vie donnée. Gabriel ne change-t-il pas la conscience de Marie, celle d'Élisabeth ou de Zacharie, alors qu'il leur arrive des choses bien compliquées à gérer dans leur vie? Ils envisagent alors un autre chemin de vie. Ils ont l'audace de faire autrement que ce que les normes leur dictaient jusque-là. Noël est le jour où tout peut recommencer, comme le petit enfant qui vient de naître. C'est la résurrection contenue dans la naissance même. C'est la possibilité d'inverser le sens de l'histoire, de casser les chaînes de la fatalité, d'effacer toutes nos ardoises. Noël est une jubilation. Noël est un jubilé. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 103 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3. Et nous nous levons. Voilà, je vous invite à vous asseoir.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors c'est le moment de partager quelques annonces aujourd'hui, pour cette semaine qui vient. Nous nous retrouverons au Temple de l'Oratoire à partir du jeudi midi, 12h30, 13h30 pour la pause spirituelle, puis vendredi soir à 19h pour une veillée de Noël, puis samedi matin, 25 décembre, 10h30, culte avec Sainte-Seine, et dimanche 26, également, culte à 10h30. Et pour tout cela, j'aurai la joie de vous accompagner. Merci Béatrice pour cette prédication sur le jubilé, la jubilation. Merci d'avoir mis de la joie à notre cœur pour démarrer cette nouvelle semaine qui va nous mener jusqu'à Noël. Merci à Alexandre Korovitch qui accompagne ce culte aujourd'hui. Alors nous avons... Je te passe la parole.
Alors oui, peut-être simplement vous dire que c'est Agnès qui vous accompagne pour tous les cultes, comme elle vous l'a dit. L'année dernière, c'est moi qui étais avec vous, et du coup, cette année, je serai en repos jusqu'au 29 décembre, et puis ensuite, je reviendrai pour continuer, et j'aurai la joie d'accueillir Gilles Castelnau en tout début janvier pour ouvrir une nouvelle année. Voilà. Hier, nous avons eu un concert extraordinaire ici même, un concert Éloge du Don, qui était magnifique, un très très beau programme, et on a été très très heureuses, Agnès et moi, de participer à cette belle initiative qui a rassemblé plus de 150 personnes ici hier après-midi. Je vous invite vraiment à participer à ces concerts spirituels qui ont lieu chaque mois. Le prochain sera le 8 janvier. Voilà. Nous allons maintenant procéder à l'offrande. Sachez que en fin d'année, c'est là que les trésoriers ont parfois quelques petites inquiétudes, mais on sait très bien qu'il faut faire confiance, et on a raison de faire confiance, parce que tous les paroissiens sont toujours très généreux pour leur église, parce qu'ils savent que c'est eux qui font l'église, et que l'église, c'est leur don et leur tout ce qu'ils propose, tout ce qu'ils partagent. Donc nous n'avons pas de raison de nous inquiéter plus que ça, parce que vous êtes là. Nous savons à quel point vous faites votre devoir envers votre Église, et vous la soutenez fidèlement pour tous ceux qui sont là. Je suis sûre que c'est le cas, et si ce n'est pas encore le cas, vous allez commencer aujourd'hui, c'est certain. Donc je vous invite maintenant à un temps d'offrande pour cette Église. Oui,
je crois que s'il s'agit d'un don joyeux. Donc on est dans le prolongement du jubilé.
Exactement. Exactement. Vous pouvez aussi donner sur Internet en cliquant sur le bouton « Don joyeux » qui est toujours rose à ma connaissance. Voilà. Voilà. Je vous invite à ce temps d'offrande.
Avant de nous unir dans la prière les uns pour les autres, deux précisions à vous donner. Cet après-midi, à partir de 13h, dans la salle Mono, les personnes qui voudraient partager quelques paroles d'amour autour de textes bibliques, eh bien, nous les attendrons, Béatrice et moi, à partir de 13h et ce jusqu'à 15h, 15h15, 15h30. Donc, salle Mono à la maison presbytérale. Deuxième chose, le 24 décembre aura lieu traditionnellement le Noël aux Halles. Mais Christiane vient de me dire que le goûter qui était prévu initialement a été annulé. Par contre, la distribution des cadeaux, en fait, aura lieu à partir de midi jusqu'à 18h à la maison presbytérale. Et donc, nous avons besoin de renforts de bénévoles pour distribuer, participer à cette distribution. Donc, merci de vous faire connaître soit à Christiane Huro, soit à moi-même cette semaine. Avec plaisir. Merci d'avance.
Voilà, je vous invite à la prière. Éternel, dans ce temps de l'Avent, beaucoup se croient complètement isolés et n'osent plus demander la présence de quiconque auprès d'eux. Heureusement, il y a les initiatives bénéfiques, toutes les aides qui sont faites pour que chacun se sente aimé, entouré, particulièrement en ces moments où la famille manque, où les amis manquent, quand on se retrouve seul chez soi. Et parfois tout cela ne suffit pas, et le cœur reste en hiver. Alors Seigneur, nous te demandons ton amour, ta joie profonde, pour tous ces cœurs esselés. Aide-nous à voir avec qui nous devons absolument être en ces jours de fête, pour que ce soit vraiment des fêtes. Aide-nous à voir la solitude dans le regard de nos frères et de nos sœurs. Et si nous ne voyons pas, Seigneur, aide chacun à trouver en lui cette lumière que tu offres par ta parole, par ton amour inconditionnel, par ton sabbat constant. Nous te demandons, Seigneur, en ces temps où certains pays traversent des tragédies humanitaires, de nous aider à aider, de nous aider à comprendre, de nous aider à sauver des vies au-delà même de toute provocation politique. Nous pensons à tous ces petits-enfants qui meurent de faim et que nous voyons impuissants, dont nous voyons les images sur nos écrans. Bénis, Seigneur, toutes ces familles prises dans les travers de l'histoire. Permet que nous puissions, avec nos États, être réellement des aides pour ceux qui meurent de faim. Nous te demandons, Seigneur, ta parole partagée, ta parole expliquée, ta parole critiquée. Nous te demandons cette parole au cœur de nos vies, pour que toujours les mots n'enferment pas ce que tu es, mais que nous puissions te chercher sans cesse, avec la joie de te rencontrer au détour d'un événement, au détour d'un changement, au détour d'une conversion que nous n'attendions pas. Prépare-nous à ta présence à travers les mots anciens, les témoignages, tous ces mots que nous partageons comme un trésor et pour lequel nous avons la plus grande passion. Donne-nous, Seigneur, cette parole pour que nous en vivions et interdis à quiconque, par ta puissance même, de s'en servir contre les hommes. Et ensemble, nous te disons, plein de confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment de nous séparer ici, aujourd'hui, mais nous sommes toujours en communion par le Christ. Que ces temps de Noël soient des temps lumineux pour chacun, même si la vie est difficile au dehors, que dans votre cœur vous ayez toujours la présence de ce tout petit qui annonce une vie nouvelle. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde. Amen.